Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Toujours plus haut, Jordan Bardella caracole à plus de 32% dans les sondages à 7 semaines des élections européennes. Alors quels sont les ressorts de cette percée? Quelles conséquences pour la majorité, pour Gabriel Attal notamment? Pourquoi la candidate macroniste Valérie Ayer ne décolle-t-elle pas dans les sondages, mais au contraire recule? Valérie Ayer qui est même désormais menacée par Raphaël Glucksmann, qui fait revivre le Parti Socialiste avec 12% des intentions de vote et se prend à rêver de devenir, pourquoi pas, la deuxième force politique du pays, au point d'éclipser Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine élection présidentielle. Bref, on le voit, ces élections européennes, les dernières avant 2027, pourraient bien rebattre tout le paysage de la politique française. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « L'échappée Bardella, la remontada Glucksmann ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur, votre dernier livre « Moi, Jean-Luc M. » chez Studio Fact Éditions et Grasset. Astrid de Villene, vous êtes productrice et présentatrice de Sens Politique sur France Culture, votre livre « Les 7 péchés capitaux » de la gauche, c'est chez Lattès. Caroline Michel-Aguirre, vous êtes grand reporter au service politique du Nouvel Obs. À lire dans le Nouvel Obs cette semaine, pourquoi Raphaël Glucksmann affole ses rivaux. Et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP, votre sondage quotidien pour le Figaro montre un Jordan Bardella qui progresse encore avec désormais 32,5% des intentions de vote pour les européennes. Et puis je rappelle votre livre, La France d'après, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Jérôme Fourquet, justement, quels sont les ressorts de ce qu'il faut bien appeler une percée de Jordan Bardella? La presse cette semaine disait élection européenne, Bardella toujours plus haut.
Oui, alors il faut voir déjà que le niveau de départ était déjà assez élevé. Aux élections européennes de 2019 et aux celles de 2014, le RN et FN à l'époque étaient déjà arrivés en tête du scrutin européen. Alors la dernière fois, pas de beaucoup, d'un point devant En Marche, mais on est aux alentours de 24 ou 25% des voix. Donc en sciences politiques, on compare souvent à l'élection de référence, la précédente élection européenne, mais regardons aussi ce qui s'est passé à la présidentielle. Marine Le Pen a fait 41,5% des voix au deuxième tour. Et 89 députés RN avaient été élus aux législatives. Donc ça, si vous voulez, c'est le socle de départ qui fait qu'on a un peu oublié, parce que Marine Le Pen a été battue à la présidentielle, mais qu'elle a une audience, et son parti a une audience qui est aujourd'hui très importante dans le pays. Vous ajoutez à cela le phénomène Bardella, hein, qui, avec son image personnelle, sa présence médiatique sur les réseaux sociaux, permet d'élargir l'audience du Rassemblement national.
Ça joue, ça? Il plaît à des gens qui n'auraient pas voté RN si ce n'avait été, par exemple, Marine Le Pen?
Manifestement, notamment, on le voit, il y a une progression chez les femmes, il est plus fort chez les femmes, chez les jeunes. Il y a une présence sur les réseaux sociaux qui est significative. Et puis, à côté de cela, il y a aussi le contexte, un contexte politique, un contexte sécuritaire, qui alimente un bruit de fond qui a historiquement toujours été favorable au RN depuis l'élection législative, donc qui était le dernier scrutin. Nous avons connu des émeutes, nous avons eu l'affaire de Crépol, nous avons eu l'égorgement d'un professeur Dominique Bernard dans un collège. Plus récemment, il y a eu l'affaire du lycée Maurice Ravel, où un proviseur a été menacé. On a eu d'autres faits divers récemment en province, mettant en prise des jeunes enfants. Et tout ça alimente une inquiétude sécuritaire en lien pour cet électorat à la question de l'immigration, avec toujours en toile de fond également les questions économiques, puisque le pouvoir d'achat reste la priorité numéro un des Français. Donc, pour résumer, un socle de départ qui est très élevé, un candidat qui est performant en termes d'image personnelle et un contexte qui est aujourd'hui porteur, avec la capacité pour le RN et Jordan Bardella à capter, avec l'aide d'En Marche ou de Renaissance, le statut de principal opposant. Et donc l'idée de se dire, pour les électeurs qui veulent sanctionner l'exécutif, le meilleur vote aujourd'hui, c'est celui pour Bardella, et tant mieux s'il est haut, comme ça, plus violente sera la claque.
La claque. Astrid de Villene, d'ailleurs, avec tous ses ressorts, on a l'impression que Jordan Bardella n'a même pas besoin de faire campagne. D'ailleurs, il refuse d'aller dans les débats. Oui, on lui reproche même d'être un peu arrogant.
Il va rater un quatrième débat encore ce soir, donc c'est assez frappant pour une campagne. Normalement, on va dans les débats. Son entourage le justifie en disant qu'ils n'ont pas besoin, puisqu'en effet, ils ont cette notoriété-là.
Il choisit ses villes de meeting aussi, il paraît, en fonction du nombre d'habitants des villes.
Ils vont dans les petites villes, pour aller dans des endroits où ils ont potentiellement du succès. Mais est-ce que vraiment il y aura une participation à ces élections européennes? Je ne sais pas. Moi, j'ai la sensation qu'il joue le coup d'après, en fait. Et que c'est pas, vu qu'il est totalement leader à 30%, plus de 30%. Après, attention au sondage aussi. Hein, c'est dans 7 semaines, l'élection, ça peut bouger. Le fait de ne pas faire campagne, c'est peut-être pas comparable, mais on l'a vu pour Emmanuel Macron lors des dernières législatives, ça ne lui a pas porté chance. Donc peut-être que les électeurs vont se dire « c'est gagné ». On n'y va pas. Ils craignent quand même ça, hein, au sein du RN, le fait que l'électorat ne se mobilise pas ou soit tenté par des petites listes. Vous savez, comme il y en a souvent dans ces élections de la ruralité ou des chasseurs ou autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tellement en avance et il est tellement connu qu'ils estiment que ce n'est pas la peine. Ce qui est très d'aller dans ces débats, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est la première élection européenne depuis la guerre en Ukraine. Et alors que Marine Le Pen avait perdu le débat face à Emmanuel Macron sur cette question de sa proximité avec la Russie, aujourd'hui, on dirait que ça ne leur pose pas de problème, en tout cas dans les sondages. Et ça, c'est un paradoxe.
Caroline Michel-Aguirre, est-ce à dire aussi qu'il y a un phénomène, comme on en parlait, Bardella, qui intrigue, qui suscite de la curiosité, qui plaît au-delà.
Même un phénomène Jordan.
Un phénomène. Vous l'appelez par son prénom.
Pas nous, mais on l'appelle beaucoup par son prénom.
Voilà, un phénomène Jordan, une Jordan mania, qui fait qu'il plaît au-delà des cercles traditionnels, des électorats traditionnels du Rassemblement national.
Je suis très frappée quand j'écoute les gens parler, par l'effet page blanche que suscite Jordan Bardella. Son physique, un peu gendre idéal, passe-partout. Sa jeunesse qui fait qu'il n'a pas vraiment de passé, donc de casserole. Le fait qu'il ne fait jamais de bourde fait que chacun projette un peu sur lui ce qu'il attend. Je suis notamment frappée quand je parle avec des représentants patronaux qui vous disent dans les sections locales, régionales, des syndicats patronaux, de plus en plus d'adhérents. Bon, comme tous les Français, ils ne sont pas différents, mais sur des thématiques qu'on n'aurait pas attendues, disent qu'ils vont voter RN, et en particulier Bardella, sur le thème, lui, va nous faire le choc de simplification qu'on voulait. Voilà. Comme il n'a pas été usé par le pouvoir, il y a un effet page blanche.
Chacun projette un petit peu ses envies en disant, avec Bardella, ce sera mieux, y compris sur le plan économique.
Parce qu'il a ce côté un peu lisse, il a beaucoup bossé justement pour être crédible sur le plan économique, qui a été très longtemps et qu'il est encore, je pense, le talon d'Achille de Marine Le Pen. Et on voit bien qu'il y a une espèce de répartition des rôles. Jordan Bardella est, par exemple, allé faire ce grand oral à HEC avec les élèves d'HEC. C'était en décembre qu'il avait énormément travaillé et qui s'est plutôt bien passé. Il a fait aussi des grands oraux devant la Confédération Générale des PME. C'est lui qui s'école, c'est lui qui bosse pour que ça se passe bien. Et puis, il y a aussi un effet tout aussi page blanche, je trouve, auprès des jeunes, comme Jérôme Fourquet l'a mentionné. Les jeunes le découvrent sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier, pour ne pas le nommer. Et pour eux, le RN, je parle de ceux qui vont peut-être voter pour la première fois là, qui ont 18 ans, ça ne charrie pas du tout.
Ça ne sent plus le soufre.
Mais pas du tout. C'est, il est jeune, il a l'air sympa, il a une belle gueule. Voilà, c'est... Donc il y a un effet page blanche du fait de sa jeunesse, du fait qu'il n'a pas été au pouvoir encore, du fait qu'il cultive aussi cette image un peu lisse, passe-partout, etc. Et pour la jeunesse, c'est vraiment un personnage complètement nouveau.
Alors Christophe Barbier, un RN, donc, quel statut de favori? C'est pas toujours agréable, d'ailleurs, d'être ultra favori. On s'expose à des déconvenues, d'ailleurs à de l'abstention, comme le disait à l'instant Astrid de Villene.
Être favori, c'est pas toujours une situation enviable, parce qu'on est la cible de tous, mais être favori avec quasiment le double de points du deuxième, ça, c'est quand même confortable. Alors, c'est sûr que si Bardella, au soir du 9 juin, est en dessous des 30%, il y a des gens qui vont dire, vous voyez, il y a une déception, ils n'ont pas franchi la barre symbolique. Tout de même, ça sera une énorme victoire s'ils ont la liste de la majorité présidentielle 10, 12 ou 15 points derrière. Par ailleurs, le nouveau match maintenant, c'est peut-être plus Glucksmann-Hayet que Hayé Bardella. En revanche, les deux faiblesses de cette candidature RN, elles sont un peu du côté de Bardella, parce que s'il y a un effet Jordan, voire une Jordan-mania, il n'y a pas de bardellisme. Il n'y a pas de pensée Bardella, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas d'idée-force. Il répète ce que dit Marine Le Pen, il sort les fiches du RN, et même s'il a passé des grands oraux, il n'y a pas de grande pensée. C'est un peu normal, il n'a pas 30 ans, mais enfin, s'il veut penser les échéances futures, il faudra quand même qu'il développe autre chose que simplement ce profil lisse de bon communicant. Et l'autre faiblesse du RN, ce n'est pas la campagne. Dans la campagne, il ne s'expose pas, les Français s'y intéressent guère, il y aura un sprint dans les 15 derniers jours, les risques de campagne ne sont pas énormes pour eux. C'est ce qui va se passer à côté de la campagne. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine au mois de mai? Est-ce qu'il y aura une offensive russe? Est-ce que les Français auront peur de voir Poutine envahir Kiev et s'approcher des frontières de l'Europe? Est-ce qu'il y aura au Proche-Orient une explosion, un embrasement régional? Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes exogènes à la campagne qui provoquent une sorte de sursaut patriotique autour de la liste de la majorité? Pas parce que la liste est bonne ou que le programme est intéressant, mais parce que dans une période de peur et de trouble, on ne veut pas affaiblir l'exécutif. Emmanuel Macron en a profité en effet en 2022, ça a un peu anesthésié la campagne présidentielle. Est-ce qu'il va se passer des choses géopolitiques ou géoéconomiques qui fassent que le vote RN soit rattrapé par un vote légitimiste?
Alors Jordan Bardella fait donc la course en tête, loin, très loin devant ses adversaires. Une Bardella mania, voire une Jordan mania qui agace et inquiète le camp présidentiel. D'autant que Gabriel Attal s'est lui-même posé en rempart de l'extrême droite en arrivant à Matignon il y a quasiment 100 jours. Sujet de Juliette Perrault avec Luca Campisi et Maxime Liogier.
Des cris digne de groupies. Ce jour-là, à Marseille, 7000 personnes se sont donné rendez-vous pour assister à un meeting du RN. Jordan Bardella est la tête de liste du parti pour les prochaines européennes. Tellement populaire que l'élève pourrait bien dépasser le maître.
Il a les ambitions, il a le charisme, il connaît ses sujets par cœur. C'est tout, hein. Il est jeune. Marine, elle a fait son temps maintenant, hein. Faut passer à autre chose, hein. Les jeunes.
C'est vrai qu'il représente en fait la France déjà, et il nous permet de nous recentrer, enfin de, je sais pas comment vous expliquer, de retrouver nos valeurs.
Une notoriété qui se reflète dans les sondages. Le président du RN culmine aujourd'hui à 32,5% des suffrages, bien loin devant la tête de liste de la majorité et le candidat du Parti socialiste et de place publique. Une dynamique favorable qui pourrait permettre au RN d'envoyer 7 nouveaux députés au Parlement, en plus des 23 qui y sont déjà. Preuve que la stratégie de normalisation du parti commence à porter ses fruits. Sur le fond, en revanche, rien n'a vraiment changé. L'immigration est le principal thème de campagne du RN.
C'est aux Français et à eux seuls de décider qui peut entrer sur notre sol, qui peut s'y maintenir et précisément qui ne le peut pas. La France gouvernée par le Rassemblement national, ça ne saurait tarder, j'espère, refusera ce pacte de submersion. Elle fera respecter ses lois et rétablira l'autorité de l'État.
Une percée qui inquiète la majorité, et en particulier Gabriel Attal, qui fêtera ce jeudi ses 100 jours à Matignon. Souvent décrit comme l'arme anti-Bardella de la Macronie, le Premier ministre pourrait jouer les fusibles en cas de fiasco aux européennes. La popularité du président du RN n'en finit plus de l'agacer, comme ce jour-là, au Salon de l'agriculture.
Le Salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
Valérie Hayé, la candidate de la majorité présidentielle.
Ok, merci.
Mais à 55 jours des élections, force est de constater que les chances de réussite pour la majorité s'amenuisent. La campagne de Valérie Hayé, tête de liste pour la majorité, est pour le moins compliquée. Hier à Angers, opération en tractage avec Christophe Béchu. Difficile d'exister aux côtés de l'ancien maire devenu ministre de l'écologie, bien plus habitué à l'exercice.
C'est pas grave, on dit...
Est-ce que vous la connaissez?
Non, du tout.
Non. Vous pensez qu'elle est de quel parti?
Droite? Centre-droite, je sais pas.
Un défaut de popularité assumé par la majorité.
On a une combattante qui rentre dans l'arène avec moins de notoriété que d'autres.
mais avec pas moins d'envie.
Mais certains militants ont des doutes sur la stratégie face à Jordan Bardella.
Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un candidat qui semble prendre le pas dessus, et ce qui est très inquiétant. Et un des leviers, c'est les followers sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut arriver à convaincre et à toucher plus largement les jeunes générations, et pas seulement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles actions pour pouvoir accélérer sur ce sujet, pour être en meilleure posture, quoi. Enfin, mais en meilleure posture pour gagner, bien entendu.
Quand on parle climat, quand on parle droit des personnes LGBT, typiquement, là-dessus, on a fait beaucoup. Et le candidat dont vous parlez n'a jamais soutenu aucune des mesures qu'on a portées. Donc c'est expliquer aux jeunes que malgré un certain intérêt qu'il peut y avoir pour un certain candidat, ce candidat-là ne répond en aucune façon à leurs préoccupations.
Un candidat dont personne ne prononce le nom, comme une superstition. Reste que malgré toutes les bonnes volontés, un seul scénario semble désormais se dessiner. La majorité perd dans son duel face au RN. Duel qu'elle a pourtant elle-même installé.
Jérôme Fourquet, c'était gênant, là. Valérie Ayer, inconnue, avec la jeune femme qui disait « je ne sais pas, elle est à droite ».
Oui, alors, elle a été un peu choisie pour ça aussi. C'est-à-dire que les principaux barons de la majorité présidentielle se sont tous fait porter pâle pour être tête de liste. Et donc, on s'est rabattu sur une candidate qui voulait bien aller dans l'arène, comme a dit Christophe Béchu, qui est une jeune femme. Donc elle cochait un certain nombre de cases. C'est pas complètement nouveau. Lors des dernières élections européennes, avait été désignée Nathalie Loiseau, qui était un peu plus connue, mais pas tellement plus que Valérie Ayer aujourd'hui. Et ça s'était terminé par le fait que Emmanuel Macron, dans la dernière ligne droite, était rentré lui-même dans la bataille et avait permis de ramener l'écart entre le RN et la liste macroniste d'un point. Le soir du scrutin. Et on ne peut pas exclure que si la campagne continue de patiner, et comme on le disait, les Français ne sont pas encore vraiment, une majorité d'entre eux, intéressés par le scrutin, dans la dernière ligne droite, le président de la République décide, notamment si la situation géopolitique venait à se dégrader en Ukraine, de personnaliser ce scrutin, de le nationaliser davantage en disant... c'est de la question de l'Europe dont il est question, pour essayer de... On parlera de Raphaël Jospin tout à l'heure, de capter l'électorat pro-européen derrière lui. Et donc, il faut à la fois faire rempart à l'extrême droite ici en France et puis à la menace extérieure. Et donc, c'est lui qui se dévouerait pour aller mener la campagne. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez comparable avec ce qu'on avait connu comme stratégie de campagne du côté de la majorité présidentielle en 2019.
Christophe Barbier, Gabriel Attal a-t-il tout intérêt à s'engager davantage aux côtés de Valérie Ayer? Parce que dans le reportage, on voyait bien que son poste semblait menacé en cas de lourdes sanctions à ces élections européennes.
Oui, bien sûr, il a tout intérêt à s'engager. Il n'a pas grand-chose à moissonner du côté du Parlement, parce qu'il n'y a pas énormément de textes emblématiques qui vont arriver. Il y a une loi agriculture, il y a la loi fin de vie, ça fera des débats. Mais il n'aura pas de bilan de son passage à Matignon d'ici le mois de juin. Donc son bilan, ça doit être de mouiller le maillot pour essayer de faire baisser le score de Bardella. En 2019, il y avait en effet la force d'Emmanuel Macron qui était rentré dans cette campagne en sortant du grand débat qui avait calmé la colère des Gilets jaunes. Donc c'était un président qui avait redressé la barre et il avait plu à une certaine France âgée qui était soucieuse de l'ordre public. Mais il y avait eu aussi l'action d'Édouard Philippe qui était descendu lui aussi dans l'arène en dénonçant la droite Trocadéro, allusion à la dernière grande réunion, le grand meeting de François Fillon à la présidentielle de 2017. Cette droite très à droite. Et Édouard Philippe avait cassé la dynamique Bellamy, on parlait de phénomène Bellamy à l'époque, et ramené un électorat acquis à la droite, vers le vote légitimiste, le vote pour la liste Macron. Et c'est cette prise en tenaille qui avait permis à la majorité de recoller au RN. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est essoufflé, il est déclinant, il ne peut pas se représenter, il n'a plus de force d'attraction dans l'opinion. Et à part, en effet, l'actualité internationale, n'oublions pas que le 6 juin, tout l'Occident sera représenté pour les 80 ans du débarquement.
Ce sera trois jours avant
le vote. On aura une ambiance internationale, géopolitique, face au nouveau péril de ce siècle. Ça va jouer un peu pour Emmanuel Macron, mais moins qu'en 2019. Donc Attal doit faire la pointe. Il doit descendre dans l'arène, il le fera dès jeudi soir sur une chaîne d'info pour parler de ses 100 jours. Il doit venir contrer, argument par argument, Bardella. Sauf que Bardella ne fait pas de débat. Sauf que Bardella ne donne pas grand-chose dans cette campagne. Il dénonce les plaies qui frappent la France, mais il donne assez peu de solutions. Par ailleurs, les raisons du vote RN sont beaucoup des mécontentements nationaux. Le phénomène migratoire, sécuritaire, face à l'islam politique, ce sont assez peu des problématiques européennes. Donc c'est difficile pour Attal d'avoir prise sur l'argumentation de Bardella pour l'instant. Mais il est obligé de le faire, sinon en effet il sera comptable d'une éventuelle défaite sérieuse au soir des européennes.
Comptable, avec... ça veut dire qu'il peut perdre son... Il peut y avoir un remaniement avec...
Il y a deux menaces. Il y a la menace d'un remaniement. On a vu des élections se traduire par des remaniements. Après, les municipales en 2014, Jean-Marc Ayrault avait cédé sa place à Manuel Valls. Ça peut arriver après des européennes, si le camouflet est véritablement cinglant. Rappelez-vous, en 84 aussi, il y avait eu un changement de Premier ministre. Mais il y a l'autre sanction possible. C'est la motion de censure à l'Assemblée. C'est un gouvernement qui ne tombe pas parce que le président décide de changer de Premier ministre, mais parce qu'il y aurait une motion de censure renversant ce gouvernement. Or, on entend les LR menacer d'une motion de censure, soit après les européennes, mais les LR ne seront pas en posture très favorable non plus, soit après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire à la rentrée sur le débat budgétaire.
Caroline Michel-Aguirre, Christophe Barbier parlait de l'essoufflement de la Macronie par rapport à 2019. C'est vrai, qu'a-t-elle à proposer aujourd'hui la Macronie, à part... la réduction de la dette et des déficits publics.
On est sur la lancée de cette campagne présidentielle qui n'a pas eu lieu. Et là, le dernier débat qui a eu lieu au sein même de la majorité, c'était de savoir si on allait faire une loi rectificative des finances pour savoir si on allait faire 15 milliards, 25 milliards en tout d'économies, ou si on n'en ferait seulement que 20, comme l'a finalement tranché Emmanuel Macron, et qu'il n'y aurait pas de débat à l'Assemblée. Donc là, je vous ai tous perdus. Ça veut dire que d'un point de vue politique, en effet, on en est sur est-ce qu'on fait plus ou moins de réduction de dépenses publiques. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vision. D'autant plus que sur les débats, ils n'ont pas vraiment lieu. Et quand ils ont lieu, c'est entre personnes qui ne sont pas vraiment connus. Je reprenais les chiffres là pour Valérie Ayer, puisque le militant disait allez, il faut y aller sur les réseaux sociaux. Valérie Ayer sur X, ex-Twitter, c'est 33 000 followers. Glucksmann, c'est 302 000.
Ah oui.
Je ne suis pas allée voir Bardella, hein, je regarde juste. Voilà.
Certainement plus encore Bardella.
Et sûrement. Et sur Instagram, c'est 8600 followers pour Valérie Ayer. Pour Glucksmann, c'est 783 000.
Ça veut dire quoi? Une erreur de casting?
Pas de projet, pas de notoriété. Ouais. Erreur de casting, je dirais que personne n'a voulu y aller, puisqu'on sait que la proposition a été faite à des plus gros poids lourds. Tout le monde a pensé qu'il y avait des coups à prendre, certainement à raison. Mais je dirais que le responsable, in fine, c'est Emmanuel Macron, qui peine à proposer un projet. Et je rebondis sur ce que disait Christophe. Aujourd'hui, Gabriel Attal, dont on sait qu'il a été choisi parce que c'est un pro de la communication et en creux pour compenser cette absence de politique, aujourd'hui, à Matignon, ils tremblent justement de voir leur élan, si tant est qu'il existe, casser rapidement, soit par une motion de censure, soit par une défaite magistrale à l'élection européenne. C'est un gouvernement qui, au bout de 100 jours, est déjà en train de se dire mon Dieu, combien de temps
ce serait le gouvernement le plus court de la Ve République, alors, si ça devait s'arrêter en juin prochain.
C'est leur crainte. Je ne dis pas que je pense que c'est ce qui va se passer, d'abord parce que je n'ai pas de boule de cristal, même si j'aimerais bien, et par ailleurs parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron n'a pas intérêt à changer de Premier ministre tous les 4 matins. Mais cette fébrilité intégrée, qui n'est pas comment on fait pour dérouler notre programme, est-ce qu'on a dit qu'on ferait, mais combien de temps on va tenir, répond à votre question. Il y a un vrai problème de souffle et de contenu.
Oui. Alors, sinon, question téléspectateur Astrid de Villene, c'est Xavier dans le Pas-de-Calais. Il paraît que Jordan Bardella est peu présent et peu productif comme député européen. Est-ce exact? Pour reprendre les choses, c'est vrai qu'on a vu que ces élections européennes étaient un référendum pour ou contre Macron. Est-ce que c'est aussi un référendum pour ou contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui?
Moi, je trouve pas, non. Notamment parce qu'en fait, ceux qui autrefois prenaient le Frexit ou des formes de ce type, ne le font plus. Comme si le Brexit, le vrai, avait un peu traumatisé tout le monde. Aujourd'hui, en tout cas, les deux extrêmes droites disent on va changer, transformer l'Europe de l'intérieur. On va faire l'Europe des nations, disent-ils. Mais plus du tout des critiques contre l'Union européenne telle qu'elle existe. Donc ça, c'est quand même une vraie évolution. Pour reprendre, moi, je suis en effet assez frappée par le fait que la liste macroniste ne soit toujours même pas totalement constituée. Parfois, on dit peut-être qu'Édouard Philippe va venir en renfort. Peut-être que François Bayrou aussi, pour des élections qui sont connues depuis très longtemps et pour un sujet, l'Europe, qui est quand même la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron, c'est très étonnant, cette fébrilité, en effet. Moi, j'ai quand même souvenir
c'est signe de quoi ?
Je pense qu'il y a eu... Si on reprend au mois de décembre la loi immigration qui a été un choc pour la Macronie, là, vraiment en politique intérieure, ce remaniement de sortir Elisabeth Borne alors qu'on aurait très bien pu, il aurait très bien pu attendre la fin des européennes, justement comme une sanction pour dire j'ai bien compris que vous électeurs, vous n'aviez pas suivi ma politique, je suis deuxième ou troisième, je sors un Premier ministre. Là, il se retrouve avec une forme d'effet waouh, en tout cas on nous l'a vendu comme ça, pour reprendre des termes marketing qui sont de plus en plus présents en politique, Gabriel Attal, avec une jeunesse qui a pu surprendre des anciens Premiers ministres. Parce que Matignon, c'est pas simple. Hein. À l'Élysée, certains stratèges ou conseillers de Emmanuel Macron vendaient à Gabriel Attal comme l'arme anti-Bardella. Ben dans ce cas, il fallait le mettre à la liste européenne. Là, il aurait pu faire de la com, faire une bataille de réseaux sociaux. On les met souvent en parallèle comme les deux jeunes montants de la politique. Aujourd'hui, à Matignon, il est pris par autre chose, Gabriel Attal. Les affaires du pays et le poste le plus difficile ou quasiment de la Ve République. Donc en effet, il ne peut pas faire campagne. Et quand il fait campagne, est-ce que vraiment on va voir qu'il est allé dans un meeting là, très prochainement, à Laval, d'où vient Madame Hayé? Je ne suis pas sûre. Donc je pense qu'il y a eu une erreur de casting. Par exemple, un Bruno Le Maire aurait pu avoir ce profil de Matignon et peut-être qu'il se serait évité 2 mois de polémique avec un livre parce que les ambitions, en fait, c'est ce qui se joue. C'est ça qui est assez dramatique alors qu'on a une élection majeure. Ce qui se joue, c'est presque l'après-Macron et 2027 au sein de la majorité. J'ajoute une dernière chose, c'est que ça aura des répercussions, ce score, s'il est mauvais pour Madame Hayé, sur Emmanuel Macron lui-même, qui a quand même dit le jour de son élection en 2017 au Louvre, je veux tout faire pour que vous n'ayez plus, vous, Français, de raison de voter pour l'extrême droite. Alors ce ne sera pas la première fois que le RN arrive en tête aux élections européennes. C'est arrivé en 2014, Marine Le Pen, c'est arrivé en 2019, à un cheveu de la Macronie. Aujourd'hui, si c'est 10 points de plus, quel échec aussi pour ça. Et puis enfin, Gabriel Attal, là, ils essayent de se mettre en retraite cette campagne, parce qu'ils voient que ça sent un petit peu le soufre à Matignon. Mais rappelez-vous, en 2019, qui a pris la parole le jour de la soirée électorale ? Édouard Philippe, avec un visage déjà blême, devant des fenêtres sinistres de Matignon, pour dire « Ah ben, on a perdu, quel dommage, je prends ça avec humilité ». Que va dire Gabriel Attal ?
Il n'y avait qu'un point d'écart. Hein, ouais.
Voilà, s'il y a 12 points. Et en effet, est-ce qu'il y aura des conséquences politiques ? Ça fait beaucoup quand même de choses à 3 ans d'une élection présidentielle en plus.
Jérôme Fourquet.
Pour compléter ce que disait Astrid de Villene, si on regarde les... Alors ce ne sont que des sondages pour l'instant, mais Gabriel Attal était donc vendu comme l'arme anti-Bardella, notamment à destination de la jeune génération. Et si on a une vision très extensive de la jeunesse, hein, bon, disons jusqu'à 49 ans, donc ça arrange
beaucoup. Les jeunes,
ça arrange, beaucoup de monde. Ça arrange beaucoup de monde. La liste aujourd'hui de la Macronie est à moins de 10% sur les moins de 50 ans. Moins de 10%. Donc elle est sauvée uniquement par le vote des seniors. Et la liste Bardella, dans cette tranche d'âge très large, elle a 33%. Donc on voit que sur toute la France, la jeunesse, la France active, la France du travail, aujourd'hui, la Macronie est vraiment réduite à son socle le plus restreint, c'est-à-dire une partie des chefs d'entreprise et les retraités. Alors ça peut bien tomber parce qu'ils votent plus que la moyenne, mais on voit que l'arme Attal, de ce point de vue-là, a complètement raté sa cible. Et puis voyez aussi ce qui se passe du côté de Jordan Bardella avec... des annonces de ralliement qui ne sont que des individus, mais qui sont des éléments intéressants. Il y a eu d'abord eu Fabrice Légéry,
l'ancien patron de Frontex.
Et donc on a dit pendant longtemps, le RN n'a qu'un banc de touche très restreint, il n'y a pas de hauts fonctionnaires, etc. Donc patron de Frontex, c'est pas rien quand même. On a Malika Sorel. Et donc là, vous voyez, sur la symbolique des prénoms, le duo, c'est Jordan-Malika. pour le RN. Donc pour la jeune génération, on dit qu'on a quand même changé.
Malika Sorel, qui était une ancienne filloniste.
Tout à fait.
Une proche de François Fillon.
Et on a également Mathieu Vallée, qui était souvent sur les plateaux de télévision en tant que
syndicaliste policier,
commissaire de police. Et donc on voit comment le RN met en scène aussi ses ralliements qui alimentent l'idée d'une dynamique et d'une capacité à se décloisonner dans les milieux patronaux. Regardez ce qui s'est passé dans le monde agricole au moment de la fronde des agriculteurs. Ce n'est pas la FNSEA qui a mené la danse, c'est la coordination rurale, qui est un syndicat beaucoup plus marqué à droite. Et donc on voit que également sans doute dans le monde paysan, on aura une traduction électorale de ce qui s'est passé en début d'année favorable au Rassemblement national. Et donc face à cela, effectivement, Matignon et la Macronie semblent un peu tétanisés face à cette vague montante.
Christophe Barbier, est-ce que d'ailleurs cette Jordan Mania peut même inquiéter Marine Le Pen en vue de 2027? On sait souvent qu'une victoire, si elle est très belle, ça peut griser.
Non, je ne crois pas. Ce qui peut inquiéter Marine Le Pen, c'est le procès qui l'attend sur les assistants parlementaires, justement, du Parlement européen dans les années précédentes, et qui va quand même obscurcir son automne, avec un risque de condamnation à une peine d'inéligibilité. Donc si ça arrivait, oui, elle aurait bouclié au complot, au système, ça obscurcirait son horizon. Mais Jordan Bardella m'a l'air d'une nouvelle génération qui n'est pas comparable à Florian Philippot ou à Bruno Maigret, c'est-à-dire des Brutus. Des gens qui se disaient, dès que j'aurais pris assez de force à l'intérieur, je dégagerais la famille Le Pen parce que finalement, ils nous empêchent d'accéder au pouvoir. Et Bruno Maigret, en 98, comme Jordan Bardella, après 2017, se sont trompés sur leur capacité putschiste. Un poupouch, avait dit Jean-Marie Le Pen, du putsch de Bruno Maigret en 98. Et ils se sont fracassés sur la solidité du clan Le Pen. Bardella n'est pas du tout dans cette stratégie-là. Il a compris que faire sécession, faire dissidence, ça ne menait qu'au désastre. Donc il a continué à essayer d'être le gendre parfait, y compris à l'intérieur de la famille, à resserrer ses liens intimes avec le clan et à apparaître comme un dauphin naturel. C'est pas Brutus, c'est Octave, si j'ose dire, pour prendre les deux fils de Jules César. Alors bien entendu, s'il a un très bon score en juin, il peut être rattrapé par une certaine hubris et peut-être que dans son entourage, on lui dira « pousse un peu la vieille vers la sortie ». Mais je crois qu'il est assez malin pour savoir que d'abord il n'est pas prêt et que pour les Français, dans une logique 2027, c'est le ticket qui va compter. C'est Le Pen à l'Élysée, Bardella à Matignon. Il a d'ailleurs commencé à théoriser cette accession-là en disant « s'il y a une dissolution, je suis prêt à aller à Matignon ». Donc il fait très attention à ne pas apparaître en traître et en Brutus.
Il est vraiment… au fond, ces élections européennes peuvent servir de tremplin en vue de 2027. On l'a vu d'ailleurs, Jordan Bardella, dans ses discours, dire « quand nous arriverons au pouvoir, et ça pourrait arriver, souhaitons-le, rapidement ». C'est ça qui se joue aussi dans ces européennes, que ce sont les dernières élections avant la prochaine présidentielle.
Il y aura quand même les municipales, mais oui, en termes nationaux, c'est la seule. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, depuis le début, dit que ce sont des élections quasiment de mi-mandat pour Emmanuel Macron. Enfin, il les nationalise énormément. Ce qui est certain, c'est qu'il a, lui, une stratégie qui est celle de remplacer l'UMP. Et les prises de guerre dont vous parliez, autrefois, aurait sans doute été à l'UMP ou au LR aujourd'hui. Lui, il a cette envie de faire la droite classique. Et c'est peut-être aussi ce qui explique les ralliements dont vous parliez ou l'intérêt pour les milieux économiques. Moi, je suis allée récemment, l'année dernière, au 1er mai de Le Pen et de Bardella. Je peux vous dire que c'était plus du tout le 1er mai, en effet, de Jeanne d'Arc qu'on a pu connaître ou de Jean-Marie Le Pen. C'était un banquet républicain, entre guillemets, comme a pu le faire l'UMP pendant des années, à l'époque de Nicolas Sarkozy, par exemple. Et c'est quelque chose qu'il ne cache pas du tout comme stratégie revendiquée. Et qui inquiète d'ailleurs d'autres. François Hollande l'avait dit dans un article que j'avais écrit, il disait c'est les seuls qui font l'ancienne fête de la rose. Ils font de la politique à l'ancienne, en fait. Et on le voit très bien sur le terrain. Les députés RN, ils font de la politique comme le faisaient parfois les anciens, et qu'on a pu critiquer d'ailleurs à l'époque, à donner des cartes de visite, à dire je vais vous aider sur telle chose et telle chose. Ils sont très présents. En Gironde, par exemple, il y a deux départements de la Gironde qui sont RN. Dans le Médoc, etc., les députés du RN sont partout, tout le temps, auprès des vignerons, auprès des associations, etc. Chose que, notamment la gauche, a pu oublier ces dernières années. Un Mélenchon, par exemple, même un Macron, ce sont des partis qui mettent en avant des personnalités, mais qui, sur le terrain, ne sont pas présents.
Oui. Encore une fois, les prochaines élections nationales, ça peut être des législatives. Et on commence à entendre dans la Macronie, j'ai un député macroniste qui m'a dit cela, allons-y. Dissolution. Et si ça doit donner une majorité au RN, eh ben on va voir pendant deux ans ce qu'ils peuvent faire au gouvernement.
Donc cohabitation, ça,
cohabitation,
comme du temps de Mitterrand.
Ça purgera, disent-ils, l'hypothèque RN. On verra, les Français verront qu'ils n'ont pas de programme, pas d'équipe, et que leurs solutions sont des fausses solutions. Et si on veut éviter un désastre en 2027, il faut avoir avant une expérience RN à dégâts limités. Ça s'appelle la stratégie du pompier pyromane. Vous mettez le feu en espérant que ça va calmer.
Dissolution, Premier ministre RN à l'Assemblée nationale avec cohabitation.
Alors Christophe Barbier se souvient d'une époque où on avait appuyé sur le bouton de la dissolution. On pensait que c'était le meilleur calcul à faire.
C'était 21 avril Chirac. 2017.
C'était Jacques Chirac qui était là-dessus et ça s'était retourné contre lui. Donc il faut être toujours très prudent. On parlait de l'UMP ou des Républicains à l'instant. Jordan Bardella a aussi en tête, on va en parler je pense après, d'épargner relativement Reconquête et les zémouristes. En revanche, il y a un objectif, c'est de finir de casser définitivement les Républicains pour que, en cas de dissolution ou au municipal et a fortiori à la présidentielle, ils apparaissent véritablement comme le parti de l'alternance et que ce qui restera des décombres de la droite finisse par les rejoindre. À côté des milieux de petits patrons, on entend aussi que des élus locaux, des maires de communes rurales, plutôt de sensibilité de droite, prêtent une oreille attentive au RN. On a vu au sénatorial, alors c'était que 3 sénateurs pour le RN, mais même dans les endroits où le RN n'a pas eu d'élus, le nombre de voix recueillies chez ce qu'on appelle les grands électeurs, donc essentiellement des maires ruraux, avait beaucoup augmenté. Et donc là, l'objectif, c'est de finir de torpiller les Républicains pour déblayer la route vers la victoire.
Alors, il pourrait bien être la surprise de ce scrutin. Le candidat soutenu par le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, continue de grimper dans les sondages. Nouvel espoir d'une social-démocratie que l'on croyait moribonde. De quoi déclencher la colère de l'autre gauche, et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Reportage de Juliette Vallon et Pierre Dehorn.
Bah c'est complet déjà, je pense qu'il y aura même des gens debout aussi par terre.
Ah, c'est vrai.
On a l'habitude.
Un candidat attendu et heureux. Rendez-vous hier soir à Sciences Po Paris pour Raphaël Glucksmann. Sa percée dans les sondages l'autorise désormais à rêver.
Est-ce que vous vous sentez pousser des ailes ?
Je ne me sens pas pousser des ailes, j'ai les pieds bien sur terre, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espérance, il y a une attente, il y a quelque chose qui est en train de naître, et c'est à nous de faire grandir cette chose. Step by step, piano piano, chaque chose en son temps.
Face à plus de 200 étudiants, Raphaël Glucksmann donne sa vision de l'écologie ou de la défense à l'échelle européenne. L'occasion de réaffirmer ses nombreux désaccords avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Moi, je n'ai pas bégayé le 7 octobre pour condamner les attaques terroristes subies par les civils israéliens et pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
Je ne me définis pas par rapport aux positions des autres. Mais oui, il y a des divergences profondes sur les sujets internationaux. Oui, il y a des divergences profondes sur l'Europe. Et il faut savoir assumer ces divergences. Ce que je veux, c'est que les gens puissent voter en accord avec l'ensemble des principes qui constituent leur identité politique.
Un objectif, ramener au bercail les électeurs de gauche déçus par Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. Mais pour Raphaël Glucksmann, tout n'est pas encore gagné. Dans la salle, les avis sont partagés.
Je pense qu'il porte un discours fort, il est clair et honnête dans ce qu'il dit, il ne mâche pas ses mots. Et je pense que ça peut notamment séduire les électorats et notamment les jeunes.
Franchement, ces derniers temps, je l'ai plutôt vu comme hyper guerrier, hyper va-t-en-guerre, à vouloir un peu que tout le monde aille au front, etc. Je l'ai vu un peu lâche sur les questions sociales, alors que soi-disant c'était son truc avant.
Raphaël Glucksmann est-il l'homme qui ressuscitera la gauche ? Dans un sondage publié hier par Le Figaro, c'est en tout cas lui qui domine dans son camp, loin devant les candidates insoumises et écologistes. Un petit moment de gloire qui fait de l'essayiste la principale cible des insoumis, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui ne digère toujours pas l'enterrement de la NUPES.
Nous sommes capables de faire l'union, tandis que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est la division et de tendre les rapports entre les gens. Donc, si les gens de gauche votent pour nous, il y aura l'union après. S'ils ne votent pas pour nous, il n'y aura pas d'union.
En meeting à Montpellier dimanche, la tête de liste insoumise Manon Aubry se moque, elle, du retour des éléphants du PS, aux côtés de Raphaël Glucksmann.
J'ai vu hier un meeting à Nantes, Jean-Marc Ayrault. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était le Premier ministre de François Hollande. On a tendance à vite oublier.
François Hollande, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur ce plateau.
François Hollande, justement, qui rêve d'une reconstitution de la gauche après le 9 juin.
Il va falloir recréer au lendemain des élections européennes une grande famille politique, celle de la social-démocratie, qui doit être la plus grande à gauche et qui doit réunir toute la gauche.
Donc vous mettez ça sur le dos de Raphaël Glucksmann, il a ça en plus de sa campagne à mener.
Non, mais lui, il a mené une campagne européenne, mais si je peux donner l'après, je le fais ici devant vous.
L'espoir d'un retour de la social-démocratie, mais alors qui pour l'incarner ? À cette question, l'ancien président laisse la réponse en suspens.
Alors, Caroline Michel-Aguirre, question téléspectateur. Où placer Raphaël Glucksmann ? Entre le PS et Renaissance ou entre le PS et la France insoumise ? Ou un peu partout ?
La question. Alors, je vais le dire différemment. Où est-ce qu'il prend aujourd'hui ? Voilà. Parce que le constat, il est que aux dernières élections européennes, il a fait 6%. Là, il est crédité entre 12 et 13%. On est encore loin de l'élection. C'est une élection où les gens se décident souvent au dernier moment, mais on verra. Mais on peut essayer de comprendre là où il prend. Déjà, on peut se souvenir que la dernière fois, il y avait encore une liste PS qui était celle de Benoît Hamon. Donc, il a réuni tout le vote socialiste, ex-socialiste, donc on va dire que ça fait 9%. Il prend clairement aussi sur les écolos, hein, puisque Jadot avait fait un score de mémoire de 13% la dernière fois, Marie Toussaint, la nouvelle tête de liste des Verts pour cette élection, ne fera pas 13%, ça c'est certain. Donc il y a une partie de sociodémocrates écologistes qui se reconnaissent aussi dans Glucksmann. Après, la question que pose votre spectateur, il a raison, c'est est-ce qu'on est en train de voir une partie, je dirais, de l'aile gauche des électeurs d'Emmanuel Macron, la moitié des électeurs de François Hollande qui avaient voté pour lui entre 2017, se reconnaître dans Raphaël Glucksmann. C'est ce qu'on entend un petit peu dans la voix de François Hollande qui dit « Ah, c'est mes électeurs, moi je veux bien revenir finalement, je suis les détenteurs de cette légitimité-là. »
Typiquement, un Clément Beaune, secrètement, il pourrait voter Raphaël Glucksmann le 9 juin.
Alors, je ne sais pas ce que pense Clément Beaune secrètement. ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pour l'instant, dans l'entourage de Raphaël Glucksmann, ils ne sont pas totalement convaincus. Je dirais plus, les socialistes ne sont pas complètement convaincus par cette hypothèse. Le fait que cet électorat, qu'il y aurait toujours un électorat fantôme de François Hollande qui attendrait d'être ramassé, on ne sait pas trop où ils sont partis, ces gens-là. Et pour finir, en effet, il y a une partie de la gauche, plus à gauche, qui a pu voter ou Mélenchon ou LFI, notamment aux dernières législatives, qui ont pu être dérangés, voire repoussés par les positions récentes de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l'actualité internationale, qui est vraiment le sujet Gaza, sur lequel Glucksmann et Mélenchon n'arrêtent pas de se prendre. Donc il est un peu au milieu de tout, il est en train d'attraper, d'agglomérer différents électorats. Il y a aussi, je voudrais juste le rappeler, c'est quand même un député européen qui a bossé. Faut juste le rappeler parce que les députés européens qui bossent à Bruxelles, français, il n'y en a pas tant que ça. Et celui-là, il se trouve qu'il a été là-bas, il a bossé, il a fait une commission d'enquête sur les ingérences qui a laissé des traces, il a porté des sujets, parce que quand on dit qu'il est fort sur les réseaux, c'est pas seulement qu'il fait de la bonne com, c'est qu'il a aussi porté des bons sujets sur les Ouïghours, sur la fast fashion. Donc on peut peut-être espérer aussi que les électeurs lui font crédit de son travail, en plus d'agglomérer des gens qui étaient un peu en déshérence.
Alors Jérôme Fourquet, jusqu'où peut-il aller ? Est-ce qu'il peut dépasser Valérie Ayé et donc devenir la deuxième force du pays derrière le Rassemblement National ?
On n'en est pas encore là, hein, puisque si on regarde les sondages qui sont à 7 semaines du scrutin, donc, et encore une fois on le rappelle, beaucoup de Français ne sont pas encore rentrés dans cette campagne. Les sondages le situent à 12%, donc il est une tête devant ses camarades de gauche, mais Valérie Ayé est encore à 18%. Là où ça peut aller très vite, en revanche, c'est que je suis d'accord avec vous, pour l'instant, il n'a pas capté énormément d'électeurs déçus du macronisme, de gauche. Mmh. Alors, ceux qui étaient déçus très précocement, ils avaient déjà rejoint la gauche dès 2019. Ceux qui sont déçus aujourd'hui, ils hésitent encore un petit peu. Et donc ça peut aller très vite parce que tout ce que Valérie Ayé perdrait irait chez Glucksmann. Ouais. Donc vous perdez 2 points, on tombe à 16 et ça monte à 14 pour Glucksmann. Donc c'est ce qui peut être envisagé. On voit que sur ce qui a été rappelé tout à l'heure, l'enjeu géopolitique, en cas de dégradation de la situation en Ukraine, on a deux candidats qui se présentent comme les champions de la cause ukrainienne, c'est Emmanuel Macron et lui. Et donc, on voit qu'on va être à peu près sur les mêmes terrains. On ne peut pas exclure non plus que, un peu à la manière de l'élection présidentielle, quand Jean-Luc Mélenchon avait bénéficié d'un vote utile à gauche, une partie de la gauche dont on ne partage pas tout ce qu'il pense, mais il faut qu'on soit au deuxième tour. Mais là, on dit c'est la revanche, la gauche est de retour.
Elle n'est pas morte.
On a quelqu'un qui est là. Vous voyez que Manon Aubry cible les vieux éléphants du PS, mais pas Glucksmann. Et donc, c'est aussi un élément à avoir en tête, peut-être pour les ténors socialistes, c'est que le score, s'il est bon, de Raphaël Glucksmann, de sa liste, ce sera d'abord un score de Glucksmann avant d'être un score du PS. Parce que chacun va un peu plus vite que la musique en disant bon, on est déjà dans la recomposition
du PS,
on va
c'est
se
pas
refaire,
ça.
Etc. etc. Ce qui fonctionne à travers lui, en dehors de sa compétence européenne, de son style, de la constance d'un certain nombre de ses combats, c'est que justement, ce n'est pas un homme d'appareil.
Alors, Astrid Devinen, question de Dominique dans le Haut-Rhin. Le comportement et les positions de Jean-Luc Mélenchon, assez en colère, on l'a vu, explique-t-il l'ascension de Raphaël Glucksmann ?
Oui, sans doute. Il se partage en fait un électorat. C'est l'électorat de gauche, parfois qui a voté d'ailleurs pour Emmanuel Macron en 2017 et qui a été déçu. C'est dans cette idée de vote utile. Après, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, depuis 2022, alors qu'il était arrivé si haut, il a cassé ce qu'il avait pu espérer, c'est-à-dire cet électorat de gauche, même parfois des socialistes, tout ce qu'il en reste. Presque cette union de la gauche qui s'était faite toute seule au premier tour de 2022, il l'a cassé. Il l'a cassé au moment de l'affaire Quatennens. Le féminisme, c'est un sujet important à gauche. Il l'a soutenu et ça a été mal géré. Il l'a cassé au moment des retraites. Le social, c'est pas inintéressant non plus à gauche. Il n'a pas suivi les syndicats. Il a embêté les groupes parlementaires, bon, qui se sont aussi un petit peu laissés faire. Mais enfin, il a mis son petit grain de sel et ça a exaspéré tout le monde. Il l'a cassé sur l'aspect démocratique au sein de son propre mouvement où on le lui reproche en mettant de côté ses alliés. Et aujourd'hui, il y a ses positions sur Gaza, le fait que certains de ses lieutenants ne disent pas que le Hamas est un mouvement terroriste et que aujourd'hui à gauche, ça, c'est une crise qui est bien plus grave que ce qu'il y avait auparavant sur est-ce que c'est la retraite à 60 ans ou à 62 ans. C'est une crise existentielle ce qui est en train de se passer sur ces questions internationales. Donc oui, la gauche là est dans un état assez lamentable. Moi, ce qui me frappe, c'est que ils se permettent de s'envoyer des invectives depuis 3 ou 4 mois. Alors qu'ils ont en face d'eux un Jordan Bardella à 32%. Mmh. Et c'est un petit peu ce que je disais dans le livre que je vous avais eu la gentillesse de citer.
La gauche la plus bête du monde.
Bah, c'est-à-dire que c'est même presque plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 3 élections qu'ils se font remplacer par le RN. 2002, 2017, 2022. Et ils continuent à 13%, pour le plus important d'entre eux, à se dire qui est le moins pacifiste, le plus pacifiste, même si c'est pas inintéressant comme débat. Mais je pense que, alors qu'à l'inverse, à l'extrême droite, vous avez une Marion Maréchal qui fait des vidéos pour dire à Jordan Bardella, ne te trompe pas d'ennemi parce qu'elle aimerait arriver à 5%. La gauche est en train d'être remplacée par l'extrême droite. Et l'extrême droite se paie le luxe aujourd'hui, comme la gauche d'antan de Mitterrand, d'avoir une forme plus radicale, qui est reconquête, comme un réservoir de voix potentielle, comme une façon aussi de se recentrer. Et je ne sais pas si cette gauche-là en a conscience. Alors peut-être que Glucksmann crée un effet printanier, mais 13%, ça reste quand même assez bas. Et attendons de voir aussi combien il fera au final. En revanche, s'il passe devant Mme Hayer, là, je pense qu'il se passera quelque chose et il y aura un vrai signal politique. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Et les élections européennes, ça reste des élections européennes. Après, est-ce que lui, ça lui donnera d'autres ambitions pour la suite ? Peut-être. Mais jusqu'où peuvent-ils aller dans le contexte ? Et il faudra aussi retravailler le logiciel idéologique pour l'aspect franco-français. C'est vrai que c'est sa compétence européenne et les sujets internationaux qui aujourd'hui le portent aussi. Qu'est-ce qu'il va proposer si jamais il décide d'avoir plus d'ambition ? Ça sera aussi à scruter.
Christophe Barbier, vous qui avez écrit sur Jean-Luc Mélenchon, votre regard, d'abord, est-ce qu'il ne pense qu'à 2027 et Raphaël Glucksmann pourrait être un obstacle dans cette ambition ? Et pourquoi cette stratégie de la tension permanente de Jean-Luc Mélenchon, du bruit et de la fureur ? sur tous les sujets clivants. Là, il va y avoir encore, si on l'a vu, là, il y a une réunion sur la Palestine qui a fait polémique avec Jean-Luc Mélenchon.
Pour la première partie de votre question, oui, Jean-Luc Mélenchon ne pense qu'à 2027 et je pense qu'il pense à 2027 pour lui, qu'il n'est pas du tout en retrait, qu'il a envie de mener cette dernière bataille. Et dans cet objectif-là, le mauvais score aux élections européennes ne l'inquiète pas. Et la belle performance éventuelle de Raphaël Glucksmann à peine plus, puisqu'il sait que Glucksmann est un peu l'otage aussi de ce parti socialiste d'Olivier Faure. Vous avez sur la liste Pierre Jouvet et Mara Fovich, donc des piliers d'Olivier Faure. Et ils ne céderont pas la place de présidentiable à Raphaël Glucksmann pour 2027. Et Mélenchon est persuadé que ce vieux PS-là, il l'a à sa main, quelles que soient les difficultés rencontrées. Par ailleurs, dans cet objectif 2027, et ça explique pour la seconde partie de votre question, sa radicalité, il a bien pris conscience que l'extrême droite avait remplacé la gauche, notamment auprès de toute une partie des couches populaires. Mais il veut s'appuyer là-dessus. Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas gagner, arriver au pouvoir par les urnes en battant au second tour de la présidentielle Marine Le Pen ou Édouard Philippe. Il veut arriver au second tour de la présidentielle, il sait qu'il sera écrasé par Marine Le Pen, notamment du fait de la sociologie du vote aujourd'hui, mais il pense que de ce second tour et de ce résultat de second tour sortira un tel électrochoc, un tel court-circuit, un tel choc dans la société française qu'enfin il y aura la révolution. C'est une démarche révolutionnaire, celle de la France insoumise. Ce n'est pas une démarche pacifiste, démocratique, on essaye de convaincre 51% des électeurs. C'est une démarche de mise sous tension de la société pour provoquer un soulèvement. En l'occurrence, et c'est pour cela qu'il a ces positions-là sur Gaza, en l'occurrence, le soulèvement de ces banlieues de l'islam qui apparaissent à Jean-Luc Mélenchon comme le nouveau lumpen prolétariat pour faire la révolution. Il n'y a plus de sidérurgistes, il n'y a plus de mineurs, il n'y a plus d'ouvriers à la Zola. En revanche, il y a ces banlieues déshéritées, travaillées par l'islam politique. L'alliance du vert de l'islam et du rouge de la révolution, ça donne l'islamo-gauchisme. Et Jean-Luc Mélenchon pense arriver au pouvoir par la rue grâce à eux. Fantasme sans doute. Copier-coller de ce qu'on a pu voir à Cuba ou au Venezuela il y a quelques années, mais je pense que c'est sa stratégie profonde, c'est une stratégie aussi de pompier pyromane. Tout ce qui peut renforcer Marine Le Pen dans un premier temps sert la révolution, selon lui, dans un second temps.
Alors, sur l'autre partie de l'échiquier, il rêve de ringardiser le Rassemblement national de Marine Le Pen, mais Éric Zemmour pourrait bien jouer sa survie politique le 9 juin prochain. Son parti Reconquête ne décolle pas dans les sondages, et ce malgré les efforts de sa médiatique tête de liste Marion Maréchal. La guerre des extrêmes droites aura-t-elle lieu? Élément de réponse avec ce sujet de Léo Seux et Dominique Lemarchand.
En campagne, l'image est parfois trompeuse. Marion Maréchal, tout sourire, enthousiaste. La candidate peine pourtant à décoller dans les sondages. Dans l'ombre de ses anciens amis. Reconquête et Rassemblement National, deux partis pour une extrême droite. Alors c'est à celui qui aura le discours le plus marqué, le plus radical. Et à ce jeu-là, Marion Maréchal n'est pas en reste.
Chaque actualité, chaque fait divers autour de l'islam est un mini tableau de la France d'après. Une société dans laquelle la mixité homme-femme n'existera plus, la liberté d'expression n'existera plus, la charia alimentaire sera omniprésente et le voile islamique sera omniprésent. Ne voyez-vous pas là l'émergence d'un conflit de civilisation ?
Bain de foule, selfies en quantité et échanges avec les militants.
Souriez, l'impression que vous êtes triste.
Non.
Mais dans toutes les têtes, le risque de faire moins de 5%, le seuil d'éligibilité. La candidate est juste au-dessus, seulement 6,5% d'intention de vote. Et aux indécis, ce n'est pas un argument de fond qu'avance Guillaume Pelletier, le numéro 2 de la liste, mais un drôle de calcul électoral.
Ce qui est très intéressant dans cette campagne-là, c'est que tous les Français, d'ailleurs qu'ils soient de droite RN, de droite Reconquête, de droite LR, vous pouvez regarder même, il y a eu quelques sondages là-dessus qui le démontraient, rêve de voir comme futur leader de la droite en Europe, Maréchal et Bardella. Bah, autant leur expliquer que comme Bardella est sûr d'être élu, parce qu'il est à 30%, s'ils veulent les deux, il n'y a qu'un seul vote à faire, c'est le vote Marion. Au fond, si chaque électeur RN partage un peu ses voix, un peu de Bardella, un peu de Marion, bah, ils auront les deux au Parlement. Et comme ça, c'est gagné.
Sauf que chez Reconquête, il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord avec cette stratégie. C'est Éric Zemmour, le chef du parti. Lui a fait du Rassemblement National un adversaire comme les autres.
Vous avez remarqué que Marine se voit déjà dans le bureau de Macron. Jordan, lui, s'est réservé le strapontin de Matignon. Seulement vous n'êtes pas dupes. Ce n'est pas parce qu'on est dédiabolisé qu'on est sanctifié.
Alors quand la campagne prend des airs de guerre ouverte, avec ce tract du Rassemblement national associant Marion Maréchal à Ursula von der Leyen, la tête de liste Reconquête s'adresse directement à Jordan Bardella.
Ne te trompe pas d'ennemis, Jordan, ne nous trompons pas d'ailleurs d'ennemis dans cette élection. Je pense, comme moi, que tu entends sans cesse sur le terrain, sur les réseaux sociaux, nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus.
Son rêve, c'est ce qu'elle appelle l'union des droites. En janvier, c'est à François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains, qu'elle semblait tendre la main. Proposition balayée par l'intéressé.
Je ne vois pas tellement le sens qu'il y a à appeler à l'union des droites quand on a simplement créé une division supplémentaire. Pour moi, tous les électeurs de droite doivent pouvoir se reconnaître dans le parti qui a la mission historique de les représenter et qui est le Parti des Républicains.
À 8 semaines du scrutin, l'enjeu pour Marion Maréchal est immense. Convaincre et consolider son électorat. Selon le dernier sondage Ipsos, plus de la moitié des électeurs potentiels de la candidate Reconquête indiquent que leur choix peut encore changer.
Alors Jérôme Fourquet, question téléspectateur, pourquoi les électeurs de Reconquête se tournent-ils massivement vers le Rassemblement national ?
Alors, en partie, hein, comme ça a été rappelé, aujourd'hui, cet électorat est scindé en deux, entre une partie qui reste fidèle à son vote en faveur de la liste zémouriste, et puis une partie qui est tentée, ça existe aussi à droite, pas qu'à gauche, par le vote utile. Si vous êtes de sensibilité de droite nationale, quel intérêt ça a, en dépit de la démonstration de Guillaume Pelletier de voter pour Marion Maréchal, autant faire le plus gros score possible pour la liste RN. Rappelons-nous que dans le rolling de l'IFOP présidentiel, la veille de l'invasion, du début de l'invasion russe en Ukraine, Marine Le Pen et Éric Zemmour étaient à 16% chacun. Et donc, du fait de la mauvaise gestion de cette crise par Éric Zemmour, il a commencé à dévisser dans les sondages au profit de Marine Le Pen. Et ensuite, il y a le phénomène de vote utile qui s'est mis en place. Et donc, il sauve les meubles avec 7% à la fin, mais Marine Le Pen fait 23%. Donc, 23 et 7, ça fait 30. Vous voyez que ce bloc est de 30%. Et donc là, aujourd'hui, il est encore un peu plus large, hein, parce que Reconquête plus RN, on est à 38 ou 39%, ce qui est colossal. Donc, c'est à peu près le score du deuxième tour de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, la liste Reconquête souffre énormément de cette question du vote utile, à la fois pour la question européenne et puis aussi quand même pour l'enjeu national, en disant pour faire mal à Macron, il faut qu'on vote pour la liste qui fera le score le plus élevé possible. Ce qui peut permettre aussi la porosité, c'est que on a dit tout à l'heure que Jordan Bardella était un candidat page blanche. Idéologiquement, il est plus près d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Il est sur la ligne la plus droitière. Et vous voyez que dans ce monde-là, tout le monde se tutoie. Marion Maréchal s'adresse à lui en le tutoyant, parce que idéologiquement, en fait, ils sont très proches. Vous avez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui chez Éric Zemmour, qui sont des transfuges du RN. Donc il y a une porosité idéologique plus forte entre Bardella...
Leurs électeurs aussi sont très proches
Idéologiquement, oui. En bonne partie.
Et la sociologie
Et la sociologie est plus âgée, un peu plus bourgeoise du côté de Zemmour. De Zemmour. Mais justement, le fait que ce soit Bardella qui porte la liste RN permet plus facilement des reports que si c'était Marine Le Pen ou quelqu'un qui aurait eu jadis le profil d'un Florian Philippot.
Et pourtant, Astrid de Villene, on a l'impression, donc idéologiquement très proche, dites-vous, mais on a l'impression d'une plus grande radicalité dans le parti, en tous les cas affichée dans le parti Reconquête, là où le Rassemblement national est plus dans une stratégie de dédiabolisation.
En fait, Reconquête et Éric Zemmour sont monothématiques, toujours sur les questions d'identité, d'immigration, d'islamisation, je mets des guillemets, de la France. Et en fait, c'est que ça. On a vu l'échec que ça a pu être. 7% aux élections présidentielles, c'est peut-être pas un échec vu les idées qu'il porte et vu la nouveauté d'Éric Zemmour dans la sphère politique, mais en tout cas aux élections législatives, zéro député. Quand le RN, rappelez-vous, c'était on amenait 89. Aujourd'hui, Reconquête joue encore une fois beaucoup dans cette élection. C'est 5% le seuil. En dessous de 5%, il y a zéro, encore une fois, eurodéputé. Donc ce serait un sacré échec pour ce nouveau parti. Le RN de Jordan Bardella n'est pas est évidemment là-dessus. D'ailleurs, récemment, un des proches, un des cadres du RN me disait « Au fond, on est d'accord sur l'essentiel, sur l'Europe. » donc l'anti-immigration, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Mais sur la stratégie, Jordan Bardella, Marine Le Pen, par exemple, Marine Le Pen ne dit pas qu'elle est de droite, contrairement à Éric Zemmour. Elle dit « je suis ni droite ni gauche ». Et elle, elle va mettre beaucoup l'aspect sur, beaucoup plus la focale sur l'aspect économique et social, ce que font moins Reconquête et Marion Maréchal, qui, ou alors se disant de droite, libérale, proche des idées de LR, ce que ne fait pas du tout Marine Le Pen. C'est ce genre de différence qu'on observe, mais depuis longtemps, au sein du RN. Là, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre reportage, ce qui était intéressant de regarder, c'est ils semblent un peu désespérés chez Reconquête pour dire « s'il vous plaît, votez pour nous ». C'est quand même paradoxal de dire ça dans une élection. Normalement, on n'a pas besoin de supplier le parti d'à côté pour que certains électeurs se dévouent pour voter pour vous. Mais c'est intéressant de noter que Jordan Bardella, qui lui vise autre chose, pourquoi pas Matignon ou d'autres postes nationaux, récemment dans un débat sur le Figaro, faisait un débat avec Manuel Valls en disant à Manuel Valls « rejoignez-nous ». Donc ils sont tous dans cette stratégie. Je ne sais pas si ça attrape tout, mais en tout cas, plus d'avoir de crédibilisation, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir comme des garants de respectabilité et de république.
Et on ne va pas s'abaisser, quand on est Jordan Bardella, rentrer dans un match avec un parti à 5 ou 6% en disant on les aura de toute façon et nous on élargit le débat.
Allez, on revient tout de suite à vos questions. Caroline Michel-Aguirre, comment Raphaël Glucksmann est-il perçu par les électeurs de la France insoumise? Il y a eu un procès en boboisation intello-parisianiste.
Comme un représentant de l'élite déconnecté, mondialisé, traître à la cause du Gaza aussi. Ce qu'il est pour la partie élitiste, et il le reconnaît lui-même, c'est-à-dire que on connaît son pédigré, hein, c'est un enfant d'intellectuel qui ne vient pas de cette France des campagnes qui parfois a nourri nos figures politiques. Cela dit, cette fois il se déplace, et moi je dirais pour une partie de l'électorat, pas forcément l'électorat jeune de la France insoumise, mais pour une partie de l'électorat plus âgé, les Français aiment malgré tout ce côté intello qui réfléchit, qui n'est pas seulement dans le coup de com'. Je pense que ça peut être aussi, s'il la joue intelligemment, un atout de dire « moi je suis sur le fond, moi je bosse, je ne fais pas de la com', etc. » Mais il y a une partie de l'électorat de la France insoumise, la plus jeune et la plus radicale, je pense qui ne pourra pas se reconnaître, la plus politisée, je dirais, au sens militant du terme, qui va avoir beaucoup de mal à se projeter dans la figure et le passé de Raphaël Glucksmann.
On a parlé de deux gauches irréconciliables.
Oui, c'est le cas. Il avait défendu les Ouïghours, ça a été son grand dossier. Or, Jean-Luc Mélenchon et les siens ont refusé de condamner la Chine dans le traitement infligé aux Ouïghours. On est là avec deux gauches irréconciliables. Mais encore une fois, est-ce que l'ensemble place publique PS, c'est Raphaël Glucksmann? Derrière, il y a un PS cabossé, qui s'est aventuré dans la NUPES, qui en est revenu, qui ne sait plus trop qu'en faire. Donc l'après européenne va pas être simple pour passer à une vraie social-démocratie, parti de gouvernement qui part en conquête du pouvoir. On n'est pas en 1977 avec le programme commun et l'ascension de François Mitterrand vers l'Élysée. C'est quelque chose de beaucoup plus fragile et artificiel, à eux de montrer qu'ils ont du talent.
Et quand François Hollande se propose en recours, c'est la comédie humaine?
Oui, bien sûr. Et puis, ce sont des animaux politiques qui ne renoncent jamais. Oui. Mais personne dans notre pays n'a réussi à revenir. Giscard était resté populaire dans la France centriste. Il n'a pas réussi à revenir. Sarkozy était une superstar au sein de la droite, adorée. La droite n'en a pas voulu lors de la primaire de 2016. Je pense qu'il arrivera la même chose à François Hollande. On n'a pas de seconde chance quand on a été président et qu'on a déçu.
Voter pour l'extrême droite, est-ce voter contre l'Europe ? Est-ce que c'est un des ressorts, ça, contre cette Europe qu'on n'aimerait pas et qu'on voudrait changer?
Alors, comme l'a très bien dit Astrid de Villene, aujourd'hui, on n'affiche plus la volonté, même dans cette sensibilité politique-là, la volonté de rompre à tout craint avec l'Europe. On aspire à la changer de l'intérieur. Avec là où il y a des perspectives intéressantes pour cet électorat, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur un courant qui traverse toute l'Europe. Et ce n'est pas uniquement en France que cette famille politique a le vent dans les voiles. Et donc, quand on est bardelliste ou zémouriste, on peut se dire, mais on n'aura peut-être pas la majorité à Strasbourg, mais avec nos amis italiens, avec nos amis hongrois, avec nos amis belges, avec nos amis autrichiens, on peut, de l'intérieur, faire advenir cette fameuse Europe des nations. Je reviens sur le ralliement de M. Légéry, qui était le patron de Frontex, en disant qu'il lui a bien vu que ça ne marchait pas, et donc c'est le mécanisme de l'intérieur qu'il faut changer. Marine Le Pen avait abandonné en race campagne après 2017 le référendum sur l'euro. Et là, avec la dégradation de la situation géopolitique, c'est aussi la question du Frexit qui, ou de la remise en cause des traités qui était mise de côté. Mais on a la botte secrète en disant on aura peut-être une majorité d'opinion avec nous dans l'Europe en nous appuyant sur des partenaires.
Astrid de Villene, il reste peu de temps, mais pourquoi aucun ténor du Parti Renaissance n'a accepté d'être tête de liste, sachant que l'Europe, c'est quand même l'ADN du Parti macroniste?
Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se formule. J'ai souvenir, par exemple, de Bernard Guetta, ancien journaliste député européen macroniste, qui avait fait une sorte d'offre de service. Stéphane Séjourné, moi je reviens toujours à ce casting du mois de janvier, hein, de la part d'Emmanuel Macron, on le met au ministère des Affaires étrangères. Il était quand même très identifié, par exemple, pour être sur cette liste des élections européennes. Après, attendons de voir aussi le score de Valérie Hayet, c'est dans cette semaine.
Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.